Bonjour et bienvenue sur Transistor. Vous écoutez une émission réalisée par les élèves de 4e du lycée Le Klesmeur à Lesnevin. Les élèves se sont intéressés à la pollution de l'air dans le monde, en Bretagne, à l'extérieur, mais aussi dans nos intérieurs. Bref, ils et elles ont plein de choses à vous raconter. On commence tout de suite par un état des lieux de la qualité de l'air au niveau mondial avec Loévan, Calvin et Eugène.
Est-ce que tu savais qu'on respire 10 fois plus d'air pollué en faisant du sport d'extérieur ?
Oui, mais est-ce que tu savais qu'il est même recommandé de faire du sport en salle ?
Non, je ne le savais pas, tu viens de m'apprendre quelque chose.
Est-ce que tu sais quel est le pays le plus pollué du monde ?
Non, je ne sais pas. Où se situe-t-il ?
C'est l'Inde qui est située au sud-est du continent asiatique.
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, à Bhopal, en Inde, il y a eu une fuite de produits très chimiques. Ceci a provoqué 15 000 décès, car ça a pollué l'air.
À l'inverse, c'est l'Australie qui a la meilleure qualité de l'air. La France n'est pas très bien classée en termes de pollution de l'air. J'ai appris que l'air est mauvais pour la santé et qu'il provoque des milliers de cancers à l'année et beaucoup de décès. Elle provoque le même effet que le tabagisme.
Aussi, en France, plus de 4 800 Français qui décèdent à cause de la qualité de l'air. Les plus grands polluants sont le charbon, le pétrole et certains gaz. Comme le dioxyde de soufre, ces gaz sont mortels et porteurs de maladies.
Et je sais aussi que la pollution est provoquée par toutes sortes d'appareils électriques comme le chauffage, les moteurs thermiques et aussi avec des procédés industriels comme les moyens de transport et les gaz.
Merci à Loévan, Calvin et Eugène pour cet état des lieux mondial. Au cours de leur recherche sur la pollution de l'air, les élèves ont pu discuter avec Christine Falleron, qui est journaliste à Splon. Splon, c'est un média indépendant d'enquête en Bretagne.
Les journalistes Splant ont réalisé une enquête sur la pollution de l'air à l'ammoniac en Bretagne. Pourquoi avoir choisi de travailler sur l'ammoniac ?
Alors, on a choisi de travailler sur l'ammoniac parce qu'on a été alerté à plusieurs endroits du fait que c'était à la fois une pollution importante et en même temps méconnue. Et c'est aussi la pollution à l'ammoniac, c'est une particularité bretonne. C'est-à-dire qu'effectivement, la Bretagne, c'est la région de France qui est le plus touchée par l'ammoniac, mais loin, loin, loin devant les autres. Donc c'est vraiment une particularité bretonne et ça nous semblait important aussi d'insister là-dessus, en sachant qu'effectivement, des médias nationaux se seraient pas forcément sentis légitimes ou en tout cas très intéressés par une pollution qui ne concerne que la Bretagne, mais qu'un média comme Splend qui s'intéresse en premier lieu à la Bretagne était au contraire complètement légitime, quoi. L'un des points de départ de ce travail sur l'ammoniac, c'est des alertes à la pollution aux particules fines, il y en a régulièrement, tous les ans, à peu près à cette période, là, au mois d'avril. Et pendant longtemps, on disait, bah oui, c'est aussi les voitures, les bouchons, etc. Et en 2020, vous vous rappelez de cette année 2020, en pleine période Covid, où du coup, il y avait très peu de voitures qui circulaient. Il y a eu malgré tout, en plein confinement, une alerte pollution aux particules fines en Bretagne. Et donc, c'est là que les causes de cette pollution se sont avérées extrêmement claires et que c'est effectivement les dégagements d'ammoniac lors des épandages de lisier.
Depuis combien de temps travaillez-vous sur l'ammoniac ?
Donc, cette question de l'ammoniac, ça a été un travail, l'enquête a duré à peu près, pas loin de 6 mois. 6 mois d'enquête, et du coup, il y avait deux journalistes donc, qui ont travaillé dessus. Et après, on était tout un collectif, à la fois à faire des recherches complémentaires, mais aussi à faire un travail de relecture, pour être à la fois le plus précis possible et aussi le plus pertinent. Une grande partie de ce travail de recherche s'est concrétisée dans la carte que vous avez pu voir, qui est une carte interactive dans laquelle en fait on peut voir sur chaque commune de Bretagne quelle est la quantité d'ammoniac qui est dégagée chaque année. C'est un gros travail de croisement de données, des données qui sont souvent publiques, mais qu'il faut savoir où aller les chercher. Et puis après, il y a une donnée d'un côté, une donnée de l'autre. Et puis le travail, ça a été ensuite de mettre ces données en perspective et de les lier, quoi.
Ok, merci d'avoir posé mes questions. Je vais laisser quelqu'un d'autre vous en poser.
C'est quoi l'ammoniac ?
Alors, qu'est-ce que c'est que l'ammoniac ? L'ammoniac, du coup, c'est un gaz. Et ce gaz, en fait, a la particularité d'aider à la fabrication des particules fines qui sont une source de pollution assez grave. Il y a rarement de conséquences très directes d'une exposition à l'ammoniac. Souvent, c'est des choses qui se font sur le long terme. Mais il y a quand même des risques parce qu'au moment des pics de pollution, comme ça, on conseille quand même aux personnes asthmatiques, aux personnes qui ont des difficultés respiratoires, de rester chez elles ou en tout cas de ne pas faire d'efforts physiques dehors. Donc il y a malgré tout de gros risques pour la santé.
D'où vient l'ammoniac ?
Alors, l'ammoniac, donc, il vient en majeure partie, et c'est pour ça que la Bretagne est l'une des régions les plus touchées de France. Elle vient d'éjections d'animaux, notamment vaches et cochons principalement. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Bretagne, il y a 7 millions de porcs. C'est-à-dire deux fois plus que d'habitants, donc c'est quand même une population assez énorme. En termes de bactéries, E. coli, par exemple, un cochon, c'est 30 fois plus qu'un être humain. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la proportion aussi de ces déjections, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces cochons qui créent ces dégagements d'ammoniac, quoi. Donc, c'est principalement la concentration, en fait, qui est problématique. C'est-à-dire qu'un cochon tout seul, c'est pas un souci. Mais à partir du moment où vous en avez énormément ensemble au même endroit, ça crée ces pics de pollution.
Est-ce que c'est dangereux ? Et quelle maladie la pollution de l'air à l'ammoniac peut-elle donner ?
C'est une pollution qui est complètement invisible et qu'on sent aussi difficilement. Mais par contre, c'est une pollution qui favorise les cancers ou les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que les études ne permettent pas de dire que l'ammoniac est responsable direct de la mort de tant de personnes. Mais en revanche, le fait que l'ammoniac, du coup, soit responsable de la pollution de l'air aux particules fines, ça favorise tout ce qui est cancer et maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'on s'est attaqué à ce dossier, quoi.
Qui sont les personnes les plus touchées par cette pollution ?
Alors, les personnes les plus touchées par cette pollution, en premier lieu, c'est ce qu'on raconte dans l'enquête, ce sont les agriculteurs. Qui, eux, sont vraiment au quotidien, aux premières loges pour respirer cet air pollué. Et après, en second lieu, c'est les dangers, c'est pour les personnes les plus fragiles, les personnes qui ont déjà soit des maladies des poumons, des difficultés respiratoires, de l'asthme ou ce genre de choses. Pour eux, ça peut être dangereux. Mais en premier lieu et les premières victimes de ces pollutions, ce sont les agriculteurs. Ouais.
En Bretagne, est-ce qu'il y a beaucoup d'appareils pour analyser la quantité d'ammoniac dans l'air et pourquoi ?
Pour avoir le détail, il faut aller sur le site de Airbrace, qui est l'organisme chargé de la surveillance de l'air. Et en fait, historiquement, il y avait comme ça des capteurs, alors qui sont pas uniquement dédiés à l'ammoniac, qui sont dédiés à la pollution de l'air en général. Et parmi cette pollution de l'air, il y a donc les particules fines, qu'on dit même les particules très fines, PM2.5, c'est leur nom. Et en fait, il y a de mémoire une dizaine de capteurs en Bretagne. Lorsqu'on a sorti l'enquête, il y avait un seul capteur qui était en zone rurale. C'est-à-dire que sinon, tous les autres étaient situés dans des métropoles et plutôt pour surveiller effectivement la pollution liée aux véhicules, à la circulation, etc. Et c'est ce capteur en zone rurale, du coup, au milieu des champs, le fait qu'il y ait des pics de pollution aussi à cet endroit-là, qui nous a permis aussi d'avoir des données très précises et puis d'asseoir un petit peu ce qu'on disait, quoi. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site d'Airbraise actuellement, il y a une carte de France et la Bretagne et la pointe bretonne sont tout en rouge, alors que vous avez tout le reste de la France qui est en vert.
Pourquoi il y a plus de pollution de l'air à l'ammoniac en Bretagne que dans les autres régions françaises ?
Eh bien, il y a plus de pollution à l'ammoniac en Bretagne que dans les autres régions, parce que l'une des particularités de la Bretagne, c'est vraiment la concentration d'élevage. Notamment, tout à l'heure, je parlais des élevages de porcs. Il faut savoir que la Bretagne, elle seule, fournit plus de la moitié des cochons qui sont vendus et mangés en France. Et donc, en fait, c'est cette concentration d'animaux d'élevage à un même endroit qui crée ces pics de pollution. Et ailleurs en Europe, notamment, il y a des régions identiques où il y a des gros pics de pollution. Et c'est pareil, c'est notamment du côté des Pays-Bas où on a pareil une très grosse concentration d'élevage à certains endroits.
Est-ce qu'il y a des règles autour de l'épandage et est-ce que ces règles sont suffisantes par rapport à la pollution de l'air ?
Alors oui, il y a des règles au niveau de l'épandage. Il y a notamment des périodes pendant lesquelles on peut épandre et d'autres pendant lesquelles on ne peut pas épandre. Mais ces règles autour de l'épandage, c'est principalement plutôt par rapport à la pollution de l'eau. Parce que, comme vous savez, le lisier, la grosse concentration de lisier sur les terres, c'est ça qui a amené la présence de nitrate dans l'eau. Et puis, c'est aussi ça, et c'est ce nitrate qui crée ensuite les algues vertes. Donc, vous voyez qu'avec cette très forte concentration de lisier, en fait, on a tout un tas de problèmes à plein de niveaux. Et donc, c'est vraiment de là que vient le souci. Vous savez que le lisier, en fait, on l'épand sur les terres parce que c'est un engrais naturel. Et donc, à petite dose, c'est effectivement très efficace. Mais le problème, c'est quand il y en a, trop à un même endroit, que ça crée ce phénomène de concentration. Donc ça, c'est la première chose sur l'épandage. Après, il y a des réponses techniques qui ont été apportées au fil du temps, notamment sur la manière d'épandre, c'est-à-dire que il y a les tonalisiers qui déversent le lisier par jet. Et depuis quelques années, s'est développé un système de qui s'appelle des pendouillards avec des petits bras qui vont vraiment au ras du sol pour éviter qu'il y ait plus d'ammoniac encore à partir dans l'air. Mais malgré tout, on voit bien que ça n'empêche pas les pics de pollution et qu'il est probable effectivement que la réglementation soit insuffisante à ce niveau-là, oui.
Combien de subventions touchent les agriculteurs qui polluent le plus ?
Alors, elle est intéressante cette question parce qu'effectivement, nous, le travail qu'on a pu faire dans la carte que vous avez vue, en fait, c'est de comparer les chiffres de dégagement d'ammoniac, c'est-à-dire que chaque ferme au-dessus d'un certain nombre de vaches ou de cochons, est tenu de déclarer la quantité d'ammoniac dégagée. Alors, ça reste une déclaration, hein, il n'y a pas de compteur pour vérifier, mais en gros, on sait qu'avec un certain nombre d'animaux à cet endroit-là, ça va dégager tant de tonnes d'ammoniac par an. Et donc ça, ils sont obligés de le déclarer. Et en parallèle, nous, on est allé voir du côté, effectivement, des subventions publiques, c'est-à-dire qui sont globalement, c'est l'Europe, avec ce qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune, qui donne des aides aux agriculteurs. Et donc, les aides, c'est comme plein de choses. En fait, pour y avoir le droit, eh ben, il faut rentrer dans des cases. Et effectivement, Les règles du jeu, là, actuellement, c'est que c'est des primes à l'hectare. Du coup, plus vous avez d'hectares, plus vous avez des primes. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé ces quantités d'ammoniac dégagées dans les fermes avec les subventions qu'ils pouvaient avoir. Parce qu'on peut se dire que, généralement, quand on parle de pollution, il y a un vieux slogan qui dit « pollueur-payeur », c'est-à-dire que celui qui pollue, c'est à lui de payer les conséquences de sa pollution. Et que là, en analysant ces chiffres, on s'apercevait plutôt du contraire, que c'était pollueur-payé, parce que le système d'aide, ils ne sont pas payés directement parce qu'ils polluent, mais le système d'aide mis en place fait que ça va privilégier plutôt les plus gros, ceux qui ont plein de terres. Et souvent, ceux qui ont plein de terres, c'est aussi les gens qui ont plein de cochons, parce qu'ils ont besoin de terres pour épandre leur lisier, donc ils en achètent beaucoup. Et ils peuvent se retrouver comme ça avec des subventions assez énorme et en parallèle être de très gros pollueurs. Quoi.
Et comment réduire la quantité d'ammoniac dans l'air ?
Comment réduire la quantité d'ammoniac dans l'air ? Eh ben, la principale solution, ce serait qu'il y ait moins d'animaux. Et c'est là où le débat devient compliqué, parce que quand vous avez un élevage qui a construit sa porcherie pour 10, 12 000 ou plus de cochons, c'est compliqué de lui dire d'en avoir moins, parce qu'il a des bâtiments pour, il a fait des prêts pour avoir des porcheries de cette taille-là. Donc c'est compliqué de lui dire d'en faire moins. Et puis le problème, c'est effectivement, comme je disais, c'est pas un élevage qui va être responsable de la pollution, mais c'est cette accumulation d'élevages à un endroit précis qui va créer ces pics de pollution. Mais globalement, ce que disent tous les chercheurs, c'est que la meilleure solution, ce serait quand même de réduire les cheptels, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait moins d'animaux en Bretagne. Mais c'est pas facile à mettre en place, parce que derrière il y a toute une économie. Il y a les agriculteurs eux-mêmes, comme je disais, c'est compliqué pour eux de se mettre à en faire moins. Et puis après, derrière, il y a aussi toute la chaîne des abattoirs. C'est parce que s'il y a moins de cochons, ça veut dire qu'il y a moins de travail. Ça veut dire qu'il y a moins de travail aussi dans les usines de transformation qui fabriquent le jambon, etc. Donc c'est plein de questions, donc ça remet en cause un petit peu aussi un système, un mode de fonctionnement, et c'est en ça que c'est quelque chose de compliqué à résoudre.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, merci à vous. Après, nous, ce qu'il y a d'intéressant quand même, si ce que je peux raconter, c'est que l'idée de se plaindre quand on fait des enquêtes, l'objectif, c'est aussi de se dire que si on dénonce des choses, c'est pour changer les choses aussi derrière. Si on fait ces articles, c'est aussi dans l'idée de changer les choses. Et c'est ce qu'on appelle du journalisme d'impact, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on écrit, on n'écrit pas sur des vieilles histoires de choses qui se sont passées il y a très longtemps, mais sur des choses qui se passent actuellement et sur lesquelles on a envie qu'il y ait du changement. Et donc, suite à cette enquête, l'une des conséquences, c'est qu'il y a des associations qui se sont emparées de cette enquête. Et pour quand il y avait près de chez eux des projets d'extension, de poulaillers, c'est vrai que j'ai parlé vaches et cochons, mais il y a les poulaillers aussi, parce que souvent les poulaillers, c'est des concentrations. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'endroit, mais dans un même endroit, vous allez avoir 30-40 000 poulets. Donc pareil, c'est 30-40 000 poulets qui font des déjections, qui font caca. Et de ce caca-là, il faut bien en faire quelque chose, quoi. Et donc, en fait, il y a des habitants, quand il y avait des projets à côté de chez eux, qui sont allés au tribunal. Et l'un des arguments au tribunal, c'était de dire, par rapport à la pollution à l'ammoniac, par rapport au risque sur la santé, pour les gens qui sont autour, eh ben, y a un vrai problème. Et il y a des projets comme ça qui ont été annulés par la justice parce que les risques de pollution à l'ammoniac n'étaient pas suffisamment pris en compte. Donc, on voit bien que le fait qu'on en ait parlé dans les médias, ben, ça a aidé aussi la justice à prendre conscience de l'importance de cette pollution, quoi.
Merci à Christine Falleron d'avoir répondu à toutes les questions des élèves. Tout de suite, on fait une pause musicale avec Gabriel, Marc et Ilan qui vous présentent la chanson « Carbone monoxyde ».
Le groupe Cake s'est formé en 1991 sous l'impulsion de John McRae, qui cherche à percer dans le milieu de la musique depuis quelques années. Il s'entoure d'un guitariste, d'un trompettiste, d'un batteur et d'un bassiste. Il lutte contre le réchauffement climatique, contre la pauvreté et pour la reforestation. Pendant les concerts, le groupe sensibilise le public à cette lutte. Le groupe est aussi très présent sur les réseaux.
After this, my lungs will be so fucked up. I wish I was in that Mercedes Benz, sealed away from my sins. I'd have the music high going 95. Carbon monoxide for me to bear. Hey, too much carbon monoxide for me to bear. Don't you care? Don't you care? Don't you care? After car, after truck, after this my lungs will be so fucked up. I wish I wasn't just a pedestrian breathing all this in. I look up at that gray sky, it makes me want to. Carbon monoxide for me to bear.
La chanson parle de la pollution de l'air dans les villes. Voici quelques paroles traduites. Trop de monoxyde de carbone pour que je puisse le supporter. Où est l'air? Où est l'air? Elle met en avant les conséquences de la circulation en ville et les dégâts que ça peut faire sur la santé. Quand on le respire, il prend la place de l'oxygène. On peut avoir mal à la tête, envie de vomir ou être très fatigué. On peut aussi s'évanouir ou même en mourir, mais c'est assez rare.
Merci à Gabriel, Marc et Ilan pour cette pause musicale. Si dans cette émission, on vous parle de qualité de l'air, c'est parce que la pollution de l'air a des conséquences négatives sur nos vies. Et ce sont Mayombe, Adélis et Robin qui vous en parlent.
Moi, je vais évoquer avec vous les effets de la pollution de l'air sur notre santé. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir les yeux qui brûlent au contact de l'air. La pollution provoque aussi des problèmes respiratoires comme l'asthme ou des bronchites chroniques. Beaucoup de maladies cardiovasculaires sont liées à la qualité de l'air qu'on respire.
Oui, on sait aussi que plusieurs formes de cancer en découlent. En France, 48 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution. Principalement à cause des particules fines, cela coûte 100 milliards d'euros par an à notre système de santé. Pour remédier à cette pollution, il est temps de changer notre habitude en limitant les transports aériens.
le transport routier et en faisant attention à notre mode de déplacement, par exemple.
Surtout que la pollution de l'air aussi a un gros impact sur le réchauffement climatique. Elle a une influence sur l'augmentation de l'effet de serre. Il fait donc de plus en plus chaud. Cela entraîne aussi une augmentation de la température de l'océan.
Merci à Mayombe, Adélice et Robin pour cette chronique. Quand on pense à la pollution de l'air, on pense facilement à la pollution des voitures ou encore des centrales à charbon. On pense beaucoup moins à la pollution de l'air en intérieur. Et pourtant, nos espaces de vie sont aussi concernés par cette pollution. C'est ce que vont vous expliquer Jade et Noémie.
Aujourd'hui, on va vous parler de la pollution de l'air intérieur. Ça vous préoccupe, vous ? On va vous aider à comprendre de quoi il s'agit, car elle ne fait pas partie des préoccupations habituelles. On se soucie souvent de l'air extérieur et pourtant, on n'est pas à l'abri de nos logements. Alors Jade, tu peux nous donner d'autres pistes ?
Oui, il faut être vigilant avec la peinture qu'on utilise, car la plupart contiennent des substances dangereuses pour la santé.
Ah bah oui, en Bretagne, il y a une usine qui fabrique des peintures avec des algues pour que ça soit moins dangereux pour la santé. Et il y a d'autres choses dans nos logements ?
Oui, plein, comme le tabac par exemple. Il faut éviter le plus possible de fumer à l'intérieur. Il y a aussi les tapis qui prennent toute la poussière. Puis il faut aussi se méfier des bougies, des diffuseurs ou des parfums d'ambiance.
Oui, mais tu sais qu'il existe des bougies sans produits dangereux et tu peux aussi parfumer ton salon avec un bouquet de lavande.
Oui, je suis d'accord, mais surtout, il ne faut pas oublier d'aérer. C'est le plus important.
Merci à Jade et Noémie pour ces informations. Cette émission touche à sa fin, mais avant de se quitter, on voyage dans le temps avec Abigail, Clément et Ambre.
Je vous dis bonne année 2050 d'Australie. Ici, il fait très chaud, il y a beaucoup d'inondations et d'incendies et la moitié de l'île est brûlée ou inondée. Il n'y a plus d'animaux sauvages comme le koala, le kangourou et les émeus. Il y a plus de maladies cardiaques et respiratoires à cause de la pollution, de l'air et des incendies. J'habite dans une maison avec mon enfant et je travaille dans la protection des animaux et de la nature. On a un couvre-feu, on doit porter un masque à oxygène, on est réapprovisionné en nourriture et on a le droit à une bouteille d'eau par jour. Et on n'a pas le droit d'avoir un animal de compagnie. J'espère que chez vous, ce n'est pas aussi difficile.
Salut, moi je vous souhaite une bonne année 2050 de Bretagne. Ici, il pleut la plupart du temps, mais aujourd'hui, pour une fois, il fait beau. La pollution est de moins en moins forte. Depuis 5 ans, les animaux sont élevés en plein air, car c'est interdit de les enfermer. Il y a donc de moins en moins d'ammoniac dans l'air. C'est les élevages hors sol qui étaient responsables de cette pollution-là. On peut toujours pêcher en mer, et je vais parfois à la pêche au coq quand la mer est basse. Avec mon chien. Je travaille au club de foot à Brest et j'habite une maison dans un village côtier. Mais ma maison est en retrait du bord de mer. À cause des tempêtes, les habitations proches du niveau de la mer ne sont plus habitées. Et chez toi, Ambre, c'est comment ?
Ici, en Californie, il n'y a plus de saison. On peut passer de moins 30 degrés à 45 degrés en moins d'une journée. En quelques heures, nous pouvons changer de vêtements d'été à des vêtements d'hiver. On est souvent malade à cause du changement climatique. Mais nous, au moins, on a moins de pollution que dans les autres villes d'Amérique. On ne manque pas d'eau, ni de nourriture. J'ai une maison, j'ai aussi un chat et un petit chien, et deux filles, qui sont jumelles. Je travaille dans un hôpital, je suis neurologue, pour aider les épileptiques. Et tout va bien avec mes filles. Bonne année à vous aussi.
Merci à Abigail, Clément et Ambre pour ce voyage dans le temps. Vous venez d'écouter une émission sur la pollution de l'air réalisée par les élèves de 4e du lycée Le Klesmeur à Lesnevin. À bientôt sur Transistor.